Alors bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui Anne Meuglin Delcroix à l'occasion donc de la réédition augmentée de son gros livre, comme elle dit, Esthétique du livre d'artiste, une introduction à l'art contemporain. La première édition date de 97 et là il y a eu ajout. Et je suis d'autant plus heureux d'ailleurs de présenter ce livre que je trouve que c'est un livre d'une qualité rare par la somme de travail déjà qu'il représente, mais aussi parce qu'il y a, et c'est rare aujourd'hui dans les livres consacrés à l'art et surtout à un art un peu difficile, cette conjonction du texte et de l'œuvre, il y a vraiment une étroite... relation entre l'illustration et le texte qui la commente. Et évidemment, ça, c'est révélateur d'un souci qu'a toujours Anne Meuglin Delcroix de ne pas partir dans une spéculation philosophique où l'œuvre ne serait qu'illustration et serait instrumentalisée par le théoricien, mais d'aller vraiment regarder le travail des artistes dans le détail. D'examiner tous les signifiants plastiques, de les prendre en compte, d'analyser la matière, la forme et évidemment la signification de l'œuvre. Et alors évidemment, ce livre consacré à ce médium très particulier qu'est le livre d'artiste, durant la période 60, 70 et 80, il y a des petites incursions dans les années 80, permet véritablement de découvrir ce qui se passe dans les avant-gardes à cette époque et surtout peut-être de saisir un petit peu autrement ces grands courants que sont l'art conceptuel, l'art minimal, Fluxus, la poésie concrète, le land art, etc. Mais de les saisir peut-être de façon nouvelle, un peu inattendue, parce que évidemment ce médium est très modeste en apparence, mais aussi souvent très signifiant quant au projet artistique dont il témoigne. Et évidemment, l'analyse de ce médium souvent révèle les contradictions, les tensions, voire les impasses qu'il peut y avoir dans un mouvement artistique. Et au fil de l'ouvrage, on découvre toute une époque, toute une période. On a une vision assez panoramique de ces années 60-70 qui ont été évidemment... éminemment productive et créatrice. Et c'est une remarquable, on trouve, synthèse, une synthèse critique, ce n'est pas une somme. 700 ouvrages sont retenus. Et connaissant un peu Anne Meuglin Delcroix, je me dis, mais combien n'ont pas passé la barre? J'imagine que le nombre est immense. Mais donc, c'est vraiment, en plus... pourrait-on dire, un livre fait pour tant de crises, puisque avec un livre, vous en avez 700. Et vous les avez vraiment, parce que les illustrations sont très précises et très détaillées et toujours abondamment commentées. Alors, évidemment, peut-être pour commencer, il faudrait revenir sur ce qui vous tient à cœur, quand même, c'est la définition de ce médium, parce qu'au fond, il y a beaucoup de malentendus. On en parlait tout à l'heure... Garouste vient d'illustrer Don Quichotte, on se dit un livre d'artiste, un peintre vient soutenir ou accompagner le travail d'un écrivain, d'un grand écrivain. Non. Là, vous précisez dans votre introduction, et même vous le reprécisez tout au long de l'ouvrage, tout livre auquel a participé un artiste ou qui s'est servi de l'œuvre d'un artiste, n'est pas livre d'artiste, c'est un médium très spécifique, et vous le distinguez, ces deux figures antithétiques au livre d'artiste, du livre illustré et du livre objet que font certains plasticiens. Alors ma première question serait, qu'est-ce donc que ce livre d'artiste, dans une définition évidemment qui sera peut-être minimale?
Oui, ben je vais essayer de clarifier les choses. Mais avant, je voudrais dire que la question de la qualité de ce livre, effectivement, de le rapprocher au maximum les textes et les images dont le texte parle, c'est vraiment le mérite en revient à la maquettiste, qui était vraiment remarquable. avec qui il a été très facile de travailler. Alors oui, pour revenir à la distinction, et je crois qu'elle est importante à faire, pas pour des questions de nom, bien qu'en fait, je suis persuadée que quand on a le juste nom, on a la juste, on voit mieux là et on comprend mieux la chose, exactement comme les botanistes, enfin, ou en tout cas ceux qui savent nommer une fleur, ils la distinguent des autres fleurs. Les autres, c'est des plantes, et puis voilà. Et donc, pour dire les choses un peu rapidement, livre-objet, livre-illustré, alors ce qu'on entend par livre-illustré, c'est ce que Chapon appelle le grand livre-illustré, c'est-à-dire le texte d'écrivain illustré par des gravures d'un artiste. Et puis, le livre d'artiste, au fond, ça répond à trois logiques différentes, trois logiques artistiques vraiment différentes et bien sûr à des histoires différentes. Alors, peut-être je ne vais pas m'attarder sur le livre-objet parce que, déjà pour moi, livre-objet, c'est une contradiction dans les termes. Enfin, le livre-objet, vous savez, c'est ces livres qui au fond, prennent le livre comme un motif ou qui en font une sculpture. En fait, ça relève de la sculpture. C'est vraiment un objet. Et généralement, ce qui me choque particulièrement, c'est qu'ils sont ligotés, enfin, interdits de lecture. Bon, à moi, un livre qui est interdit de lecture, ça c'est pas un livre. Enfin, disons, pour juste pas m'attarder là-dessus, mais que l'origine du livre-objet, elle est chez les futuristes. Vous voyez, les livres boulonnés avec une reliure un peu massive, il y a une espèce d'hyper-visibilité du livre-objet en tant qu'objet, et surtout des surréalistes. Le livre-objet, le mot, l'expression, elle est à peine démarquée du poème-objet, hein, de ce que les surréalistes appelaient le poème-objet. Bon, laissons ça peut-être de côté, parce qu'au fond, c'est vraiment quelque chose de très à part. Mais peut-être ce qui demande une petite précision, c'est justement l'opposition entre le livre illustré de la tradition bibliophilique, qu'on appelle aussi, enfin il y a des distinctions subtiles, mais n'en faisons pas ici, le livre de peintre aussi, et puis le livre d'artiste de l'autre côté. Alors le livre illustré, il naît à la fin du 19e. Il naît à la fin du 19e siècle, et très clairement sous l'impulsion de marchands. Hein, de marchands d'art, comme Vollard, il y a des noms très célèbres, Vollard, il y aura ensuite des gens comme Thériade, Skira, Macht, etc. Et bon, en Angleterre, il y a quelque chose d'un petit peu pas très éloigné qui serait autour de William Morris, voyez, mais ça, c'est resté très confiné à William Morris et aux pré-raphaélites, tandis qu'en France, ça s'est vraiment développé. Le premier, c'est Edgar Manet qui illustre le corbeau d'Edgar Poe, hein, et qui va ensuite illustrer l'après-midi d'un faune, toujours de, enfin, je dis toujours de Mallarmé, parce que le corbeau a été traduit par Mallarmé. Et le contexte, c'est très clairement, enfin, la finalité, c'est très clairement de refuser l'industrialisation du livre. C'est-à-dire de refuser la perte de qualité des images, des illustrations. Vous voyez les livres de la fin du 19e siècle, les petites gravures sur acier, là, les livres de Jules Verne, etc. Donc l'esprit, c'est pour ça que je parlais de William Morris, c'est un esprit de sauvegarde, hein, de retour à l'artisanat du livre dont il faut défendre les valeurs, c'est-à-dire le papier fabriqué à la main, la typographie traditionnelle, la belle typographie, la reliure, enfin tout ce qu'on appelle les arts du livre. Hein. Et bien sûr, ça donne des livres très précieux, en édition très limitée et qui sont pas faits pour les lecteurs. C'est des livres qui sont faits d'emblée pour les collectionneurs, les bibliophiles. Et puis souvent, autre caractéristique, sont des ouvrages, ce sont des ouvrages à quatre mains, c'est-à-dire un écrivain, comme vous le disiez, un écrivain et des gravures qui sont associées au texte. Et quelquefois à 6, parce que l'éditeur, et ça c'est aussi un critère très important, c'est que l'éditeur a une fonction absolument cruciale. D'abord, c'est lui qui apporte l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour faire ce genre de livre. C'est lui qui met en contact l'écrivain, enfin quand il est vivant, et l'artiste. Et quelquefois, il est arrivé, et c'est lui qui décide au fond de la maquette du livre. Et il est arrivé, par exemple, à des éditeurs comme Iliasde de signer le livre au même titre que l'artiste et l'écrivain. Bon, voilà pour quelques critères, quelques caractéristiques du livre illustré. Quant au livre d'artiste, proprement dit, il naît dans les années 60-70 du XXe siècle, même si on peut trouver bien sûr des précurseurs un peu isolés, c'est-à-dire à un moment où l'art, comme vous le savez, est totalement bouleversé, où il y a une révolte contre les beaux-arts, où la peinture est abandonnée, la sculpture, enfin, tous les genres artistiques traditionnels, et l'idée même de beaux-arts est mise en question. Et bien sûr, le livre illustré, avec son accent mis sur le savoir-faire, sur la dimension artisanale, bien sûr, participe de ces beaux-arts. Et puis, comme vous le savez aussi, on règle ses comptes avec les beaux-arts et on invente quantité de... je pense qu'on n'a jamais autant inventé de façon nouvelle de faire de l'art que dans les années 60-70, dont le livre d'artiste, Alors, pour dire les choses le plus rapidement possible, peut-être je prendrai d'abord les choses du côté de la réception. Parce qu'en fait, c'est très important. On est dans le contexte utopique des années 60, et en particulier pour ce qui concerne l'art, du côté la finalité, c'est véritablement la démocratisation de l'art. Comment faire en sorte que l'art qui était réservé aux bibliophiles, par exemple, mais enfin, en tout cas, un petit nombre d'amateurs et de collectionneurs généralement fort argentés, comment faire en sorte de rendre l'art accessible, l'art comme tel, pas la reproduction de l'art, mais des œuvres. Et comment faire en sorte donc de ne pas réserver les œuvres à une élite. Et quoi de mieux que le livre, mais le livre sous sa forme ordinaire, c'est-à-dire le livre sous sa forme moderne, industrielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas cher, ça veut dire petit format, donc ça circule facilement, on se l'envoie par la poste, on se les donne, le temps de la main à la main, ça veut dire aussi le faible coût. Et ça veut dire le tirage, en principe illimité, bien sûr, il y a toujours une limitation, mais disons que le tirage n'est pas volontairement limité comme il l'est dans le livre illustré. Et on peut dire, si vous voulez, que le livre, à ce moment-là, est vraiment un médium critique, un médium intrinsèquement critique, pas pour son contenu, il l'est souvent, mais matériellement, avec toutes ces caractéristiques que je viens de dire rapidement, il implique un rapport critique à l'œuvre d'art au sens traditionnel. C'est donc une autre idée de l'art qui est là en train de... Oui.
Je crois que vous en avez amené un, et en plus, un historiquement extrêmement important, qui sert souvent de paradigme, qui est souvent...
Oui, ça,
alors, on m'avait dit que ce n'est pas une édition originale.
Ah, celle-ci, si.
Si, celle-ci, si.
Ah, celle-ci, ah, oui, si, donc je ne la fais pas circuler.
Voilà. Donc,
mais
c'est,
ça, vous ne pouvez pas savoir les prix que ça fait. Les prix que ça fait maintenant.
Donc, c'est le 26...
Mais peut-être, on parlera de Rouchet tout à l'heure. Mais voilà, voyez, en tout cas, voyez, rien qu'au format, 26 Gasoline Station, 1963, d'Edouard Rouchet. Et puis dedans, eh bien, il y a ce qu'on peut trouver, enfin, ce qu'on ne trouvait jamais à l'époque, d'ailleurs, dans un livre, des photographies. Mais vous voyez, il n'y a rien de... Mais je vous le remontrerai peut-être tout à l'heure si on en reparle. Mais la technique, c'est de l'offset. C'est tout. Il n'y a pas de la... C'est pas de la sérigraphie. La sérigraphie, c'était même pas bien vu dans les livres illustrés, mais c'est pas de la gravure sur bois ou de la lithographie ou du burin, rien de tout ça. Et puis en voilà un autre de la même, c'est vraiment les toutes premières années, 1963 aussi, de Spoerry, l'homme des tableaux pièges, vous voyez. Alors là, c'est que du texte et voyez comment ça se présente. Enfin, c'est un petit livre très austère, très austère. Je vous parlerai peut-être si on a le temps du contenu tout à l'heure. Mais voilà, donc voyez, enfin ça, effectivement, ça concrétise un peu les choses. Et du point de vue de la création, ben, on est aussi du côté du contexte utopique des mouvements de libération de toutes sortes, vous savez. Et en particulier pour les artistes, il faut se libérer de l'institution, se libérer autant que faire se peut du marché. Et c'est vraiment quelque chose de très important dans dans l'esprit du livre d'artiste que cette revendication d'autonomie de l'artiste. C'est-à-dire qu'un petit livre comme ça, on n'a pas besoin d'un éditeur. On a juste besoin d'un imprimeur qu'on se choisit et on peut, comme l'a fait Rouchet, c'est un livre auto-édité dont il assure bien sûr la conception, la maquette et même la diffusion. C'était lui qui se chargeait de le diffuser. Et bien sûr, on se passe de la collaboration avec un écrivain. On n'a pas besoin de l'alibi du texte. Qui est considéré comme essentiel dans les livres illustrés. Voilà. Alors, ce qui va se passer dans les années 60, pour finir là-dessus, c'est que le livre va apparaître comme un médium particulièrement adapté à toutes les nouvelles formes, quelque diverses qu'elles soient, d'art qui vont apparaître. Vous comprenez bien qu'avec la performance, la performance, c'est éphémère, il faut garder des traces. Donc on fait des photos, on fait un petit livre. L'art sériel, l'art minimal, développer une série, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un livre pour, page après page, montrer comment la série, la combinatoire des formes, par exemple, se développe. Qu'est-ce qu'on peut dire ? L'art conceptuel, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a plus d'affinité avec un art de l'idée que le livre, le texte, etc. etc., etc. Ce qui fait que le livre d'artiste, c'est vraiment, je crois, le médium le plus universel dans l'art des années 60. C'est-à-dire, la vidéo, par exemple, va être extrêmement pratiquée, mais pas par tous. Alors que le livre, je crois qu'il n'y a que Smithson, comme artiste vraiment, comme grand nom, créateur de ce qu'on peut appeler, inventeur de l'art contemporain. Je crois qu'il y a Smithson, mais comme vous savez, il est mort jeune, peut-être aurait-il fait quelque chose ensuite. Mais c'est vraiment exceptionnel, tous, que ce soit des Fluxus, que ce soit des artistes minimalistes qui n'ont rien à voir dans leur art ensemble, c'est même antithétique, eh bien, ils vont tous trouver une bonne raison d'utiliser le livre. C'est pour ça que dans ma préface, la deuxième édition, j'ai ajouté une introduction à l'art contemporain, parce que cette façon qu'a le livre d'être un creuset où tout se rencontre, permet de traverser tous les mouvements importants.
Mais quand vous dites le livre, est-ce que nous savons ce que c'est qu'un livre ? Parce que quand on lit votre texte et les analyses de ces grands courants de l'art contemporain, on se rend compte que, au fond, ces artistes précisément le saisissent souvent le livre de manière oblique, et en particulier, ils font attention à quelque chose qu'on néglige souvent dans notre appréhension du livre. Ils font très attention, au fond, à la matière, à la réalité matérielle du livre. Et il me semble qu'ils partent toujours de là. Alors, cette réalité matérielle du livre, elle est assez complexe, puisqu'au fond, elle se définit à travers une multitude de propriétés. Ça va du grain de la page, au nombre de pages, au format, à la reliure, etc. Et c'est à partir de là, semble-t-il, qu'ils travaillent, qu'ils réfléchissent, qu'ils essaient de créer une forme, mais toujours, comme vous le montrez, il me semble que c'est un axe important et souvent récurrent de votre réflexion. C'est toujours au service d'un projet qui leur est propre et spécifique. Et est-ce que vous pourriez, évidemment très rapidement, et on ne peut pas revenir sur toutes vos analyses, mais parler de cette prise en compte ou de cette appréhension du livre comme entité matérielle avant d'être simplement véhicule à signification, parce qu'au fond, dans l'usage courant qu'on a du livre, on se moque de la qualité de la page. Si je lis Madame Bovary, je peux le lire avec en édition de poche ou en édition de luxe, peu importe, d'une certaine manière. Mais là, non. Il y a quand même tout un... C'est des plasticiens, quand même, la plupart. Et il y a un travail, quand même, sur la matière même du livre. Et c'est vrai que...
Oui, ce que j'ai essayé de faire, c'est... enfin, c'est à la fois de prendre au sérieux le fait que la plupart de ces artistes ne touchent pas à ce qu'on appelle un livre. C'est-à-dire, vous voyez, enfin, ça, c'est très représentatif. Hein. C'est vraiment des petits livres, des livres. Et à la fois, ils ne touchent pas ce qu'on attend d'un livre en général, et en même temps, ils ont une attention, comme vous disiez, à la manière dont leur projet peut prendre forme de livre. Et si je veux le dire autrement, il était très facile de marcher dans le sillon, si vous voulez, de la dématérialisation de l'art, de dire le livre, bah oui, quoi, c'est rien du tout comme matière. C'est les années, justement, où, comme l'a bien analysé Lucie Lippard, eh bien, l'art se dématérialise, certes, et le livre, effectivement, est un signe de cette dématérialisation, de cette manière qu'il a de se mettre à distance de l'objet, en fait. Mais d'un autre côté, réciproquement, ou à l'inverse plutôt, le fait que les artistes s'en emparent rematérialise le livre. Hein, dématérialisation de l'art, mais rematérialisation du livre. Et alors moi, je suis philosophe, en fait. Je ne suis pas historienne de l'art. Et donc ma question de philosophe, c'était, bon, sont des œuvres, on veut bien dire qu'il y a une nouvelle idée de l'art, de l'œuvre, etc. Mais néanmoins, s'il y a œuvre, il y a forme. S'il y a œuvre, il y a forme. Alors, on peut partir de l'idée que de la définition de l'œuvre comme adéquation hein, réussie entre une forme et un contenu, ou bien définition hegelienne, hein, l'œuvre comme manifestation sensible de l'idée. Mais là, je me suis rendu compte de la validité de l'analyse phénoménologique, parce que ce dont je me suis rendu compte simplement en essayant d'analyser les livres, c'est que pour le livre, il y avait un danger à éviter, c'est de confondre la forme et le format. Hein, de dire que la forme du livre, c'est ça, c'est une couverture dans laquelle il y a des pages reliées en un certain ordre. Et l'intérêt de ces livres, c'est que même quand c'est à peine visible, mais pour ça il faut entrer dans le livre, mais tout vrai livre demande qu'on prenne le temps de le regarder à fond, toute œuvre, donc, enfin toute forme, résulte, comme dans toute œuvre d'art, du travail d'un matériau. Hein? Peut-être là, travail, encore une fois, très discret, travail du support du livre tel qu'il est donné. Travail d'une matière avec ses caractéristiques concrètes dont on laisse tomber quelques-unes, et certains se fichent pas mal de la séquence des pages, hein, ils en font autre chose qu'une séquence à proprement parler. Et là où la phénoménologie est intéressante, enfin les Merleau-Ponty par exemple, quand il analyse Cézanne, c'est qu'il montre bien comment... Donc la forme n'est pas donnée, elle résulte du travail d'une matière en fonction d'un projet de signifié, mais que le sens lui-même n'est pas donné tout près, hein, avant qu'on le transforme en livre, et que donc il y a cette sorte de négociation entre la forme et le sens, qui d'où va résulter l'œuvre, hein, et en l'occurrence mes petits livres. Et c'est dans cette élaboration conjointe, donc dans cette entre-expression, dirait Merleau-Ponty, de la forme et du sens, que naît un livre d'artiste. Autrement dit, qu'est-ce que l'artiste fait du support du livre pour le transformer en une forme, même comme vous voyez, très peu identifiable à première vue, très peu spectaculaire.
Il y a quand même une propriété du livre qui est souvent mise en avant dans vos analyses, c'est qu'au fond, un livre s'ouvre, est fait de pages, qu'on tourne les unes après les autres, et au fond, que ça crée un ordre de succession. Indépendamment de toutes les autres propriétés matérielles, il y a quand même cette idée qui revient souvent, on entre dans un ordre de succession, dans une temporalité, et ça m'a paru extrêmement important. Parce qu'au fond, ces plasticiens, évidemment, avec soit la peinture, soit le dessin, soit la sculpture, n'ont pas cette possibilité de faire entrer leur œuvre dans une temporalité, que ça soit une série, que ça soit un récit, mais c'est pas nécessairement un récit. Et ça m'a paru être une dimension extrêmement importante et très intéressante hein, de ce travail artistique qui arrive grâce au livre à faire entrer le spectateur dans une succession. Alors après, évidemment, elle peut obéir à différents ordres. Et ça me paraît être la propriété qui ressort le plus de ces livres d'artistes. Mais peut-être que...
Si, c'est une propriété importante. Mais là aussi, elle est... Enfin, elle n'est pas liée au livre. Elle explique plutôt... Enfin, on peut expliquer plutôt pourquoi on a besoin de cette dimension temporelle et par conséquent, de faire appel au livre qui est effectivement bien placé avec sa séquence de pages pour exprimer cette temporalité. Mais ça, c'est aussi quelque chose de très... transversale dans tout l'art des années 60-70, qu'au fond de montrer que les arts plastiques ne sont plus, comme on le disait toujours depuis Lessing, hein, les arts plastiques sont les arts de l'espace, par opposition à la poésie, à la littérature, qui est un art du temps, hein, qui ne se présente pas simultanément à la vue ou à la lecture. Alors que dans les années 60-70, avec cette méfiance que les artistes ont envers l'objet, il y a toute une dimension de l'art qui va être processuelle. Bon, le plus évident, c'est bien sûr la performance, hein, qui se déroule dans le temps, mais ça peut être toutes sortes d'actions hein, qui sont projetées. Beuys, par exemple, en était un grand spécialiste. Et puis aussi... un tout autre, par exemple, à l'autre opposé, on pourrait dire l'art sériel. Vous hein, voyez Morlaix, je dis Morlaix parce qu'il a fait des livres, Sol Lewitt. Hein, l'idée qu'une œuvre, c'est la réalisation d'un protocole. Hein, et la réalisation d'un protocole, c'est un développement dans le temps. Et donc, il y a cette chose très nouvelle qui est l'accent mis sur la dimension temporelle dans les œuvres d'art visuelles. Plastique. Et le livre, effectivement, va être là tout prêt pour... Enfin, il n'est pas tout prêt, on l'utilise parce que il est à même d'exprimer ou de suivre ou d'ordonner cette séquence temporelle. Et oui.
Oui, je pensais, il y a des analystes, vous pouviez nous en dire deux mots, là, que vous faites sur Sol Lewitt, qui montre, au fond, la génération de ses dessins par le livre. Oui. Peut-être qu'il a plus de difficultés à le faire par l'exposition. Ou Boltanski aussi, qui, évidemment, joue sur ce côté apparition, disparition, et au fond, avec toutes ces connotations métaphysiques que peut avoir ce...
Oui, là, sont deux exemples, justement. Non, mais c'est intéressant parce que c'est opposé. Parce que la temporalité dans un livre, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être deux choses. Ça a un versant objectif, c'est-à-dire une temporalité retracée hein, grâce à la séquence des pages. Et bon, le plus banal, c'est de prendre des photographies d'une performance et puis d'essayer de donner une idée de comment ça s'est passé. Mais au fond, ça, c'est souvent très décevant. Parce que, au fond, le livre n'arrive pas à restituer. Ça, la vidéo est beaucoup plus là-dessus, évidemment. Elle est beaucoup plus en adéquation avec la temporalité de l'événement. Mais, comme vous disiez, Sol Lewitt, c'est quelqu'un qui a dit « Mais bon, pour moi, tous les médiums artistiques sont équivalents, hein, que ce soit le dessin au mur, le livre, c'est pareil. » Mais moi, je trouve qu'en fait, le livre est beaucoup plus adapté à ses travaux, du moins les travaux abstraits du début, parce qu'au fond, il donne un protocole. Hein, vous savez comment ça marche. Il dit « Ben voilà, on va prendre des lignes de telle sorte, ben, mettons des diagonales, on va les faire aller d'un point à un autre et étudier toutes les combinaisons possibles avec telle couleur. » Donc, un protocole de réalisation qui, bien sûr, se développe dans le temps. Hein, il y a toute une série de combinaisons à explorer. Bon, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez une exposition de Sol Lewitt, un wall drawing de Sol Lewitt? Il est fait. Vous le voyez sur le mur. C'est rare de voir les dessinateurs qui exécutent le protocole, on peut. Mais quand vous le voyez, il se donne d'un coup. C'est-à-dire que vous perdez totalement cette dimension processuelle. Tandis que quand vous prenez le livre, bah, vous commencez première page, il y a le protocole. Hein, et puis, à mesure que les pages se succèdent, eh bien, vous avez toute la séquence des combinaisons qui sont explorées. Et donc, du point de vue, là, très objectivement, je disais, effectivement, il me semble que le livre est plus adapté pour faire saisir cette dimension de processus. Mais ça, c'est le versant objectif. Disons que ça correspond bien à ce que l'œuvre est. Mmh. Et puis, au fond, ce qui me semble presque le plus important, ça c'est votre exemple de Boltanski, c'est la manière dont la lecture, ça c'est le versant subjectif, la lecture elle-même est temporalisante. Elle est temporalisante. Une vraie lecture, quand on lit... Moi, je lis toujours les livres à l'envers, mais c'est tout à fait faux. Enfin, normalement, un livre est fait pour que vous preniez la première... Enfin, je veux dire, je feuillette toujours comme un flipbook. Mais... normalement, vous suivez la première, la deuxième, la dame. Et je pense que ce à quoi vous pensez à propos de Boltanski, vous voyez peut-être tous, d'une part, les installations au mur de Boltanski, avec ses photos, ses visages, par exemple, ces visages qui sont, par exemple, les élèves d'une classe, dont il a isolé tous les visages. Il les met au mur. L'installation au mur a ses vertus propres. Me faites pas dire qu'il n'y a que le livre qui compte. Elle a ses vertus propres. Elle signifie, par exemple, quand il met des petites lumières autour des visages, ça renvoie à l'idée d'un hôtel. Ça renvoie aussi à l'idée d'un interrogatoire, puisque... Bon. Mais, par exemple, etc., etc., quand vous voyez ces mêmes visages dans un livre où il est question... Alors, par exemple, Lycée Chase, qui est fait à partir d'une photographie d'un lycée de Vienne en Autriche, qui est un lycée juif dont tous les enfants sont morts pendant le nazisme. Et Boltanski a... imprimer ces images sur du papier légèrement translucide. Et quand vous tournez les pages, vous voyez la disparition. C'est toute une autre expérience. Vous voyez le mouvement de la présence relative, puisque à l'absence. C'est vraiment une expérience assez forte. Et vous avez l'idée parce que le livre est assez épais, vous comprenez ce que ça veut dire un génocide. Enfin, je veux dire un meurtre en masse. Qu'est-ce que ça veut dire de tous ces visages accumulés que vous faites disparaître en tournant les pages. Et voilà. Et il me semble que c'est presque la dimension temporelle du livre, elle est la plus forte quand il est permis à la lecture de l'introduire. Mais, pas tellement quand on essaie de la restituer, parce qu'il y a toujours quelque chose. Finalement, la continuité temporelle, elle est perdue par le fait qu'une page, ça se tourne. Donc, il y a une segmentation. Il y a une segmentation. Et puis, le recto cache le verso. Vous ne pouvez pas les voir ensemble, etc., etc.
Oui. Alors, ce qui me paraît d'ailleurs très intéressant dans le travail de Boltanski, là, c'est que, et ça revient souvent dans le livre, on voit que, évidemment, tous ces artistes sont plus ou moins fascinés par la photographie. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et là aussi, ils l'utilisent, à mon avis, de façon très originale. On a le sentiment, évidemment, qu'ils ne croient pas à une référentialité de la photographie ou qu'elle puisse avoir... une dimension exclusivement documentaire ou objective, même s'il l'utilise parfois ainsi. Évidemment, il n'utilise pas non plus la photographie comme art ou comme médium artistique qui serait dévolu à l'art. Et il semble même toujours un petit peu combattre ces usages ou s'en servir à contre-emploi. Et là, bon, évidemment, je reconnais que la question est immense. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point ou une petite synthèse sur cet usage de la photographie, comme on l'a vu d'ailleurs avec Francis Station, qu'ont ces artistes, qui a un usage bien particulier et qui me laisse entendre qu'ils ont le sentiment qu'au fond, la photographie ne peut pas arriver à réaliser son essence toute seule. Il faut qu'elle soit combinée avec d'autres photographies ou qu'il y ait un texte qui la documente ou qu'elle soit, ça soit dans une succession de pages. Mais au fond, une photographie seule, ça ne veut pas dire grand-chose. Et le livre, précisément, permet de mettre des photographies ensemble ou de les mettre avec du texte ou de faire travailler la photographie.
Bon, je crois qu'il y a deux questions. Il y a à la fois la question de la photo document, le statut de la photo, puis le rapport au texte. Alors, du côté de la photographie, enfin, je pense quand même elle peut être simple en tant que telle. Hein, là-dedans, finalement, c'est quoi ? C'est des photographies de station-service. Hein, donc, d'ailleurs, Rouchet dit ce sont des ready-made. Hein, c'est ce que j'ai trouvé là, le long de la route. Il photographie toutes les stations-service. Donc, si, ça peut être un document, mais ce que j'ai essayé de montrer, mais là, il faudrait regarder des livres et les analyser précisément, mais c'est ce que je fais dans mon pavé, là. C'est qu'un livre de documents peut n'être pas un livre documentaire. Et c'est là qu'il y a réalisation d'une œuvre. Et bon. Mais là où vous avez raison, c'est le refus de la photo d'art. Mais je vous disais tout à l'heure en commençant qu'une des caractéristiques de ces artistes, c'est de régler des comptes avec l'idée de beaux-arts. Hein. Et donc, surtout pas de photos d'art. Alors maintenant, on peut plus se rendre... Il faut faire un effort de dépaysement intellectuel parce que maintenant, la photo dans les livres, on en voit partout. Hein, partout. Mais il faut comprendre ou se rappeler que dans les années 60-70, un artiste qui dit « Je ne suis pas photographe, je ne fais pas de la photographie d'art », comme le dit expressément Rouchet, par exemple, mais qui utilise la photographie comme il utilise le livre. Hein, ce n'est pas un praticien du beau livre, mais il utilise le livre. Ce n'est pas un photographe, un artiste photographe, mais il utilise la photographie. Et qu'est-ce qu'il utilise comme photographie ? C'est la photographie d'amateur, la photographie documentaire. Généralement, ce n'est pas lui qui prend les photos. Là, c'est Rouchet qui a pris les photos, mais il y a d'autres de ses livres qui ressemblent à celui-ci où il a fait faire les photos, peu importe. Il les trouve dans les magazines. Alors maintenant, là aussi, ce recyclage d'images des magazines ou d'Internet, c'est devenu presque un stéréotype. Mais... quand Annette Messager fait des petits livres en découpant des images dans des magazines féminins, c'est totalement inédit. Et Hans Peter Feldman, par exemple, qui est un autre exemple. Donc, et c'est totalement aussi inattendu dans les années 60, de voir un livre où il n'y a que des photographies sans texte d'écrivain, sans introduction, où il y a juste à faire quelque chose, effectivement, avec la séquence des photographies. Mmh. Bon, ça, c'est pour répondre rapidement à la question du statut de la photographie. Quant au rapport de la photo et du texte, ça, c'est une question vraiment très importante et qui a animé des artistes comme, et ça continue toujours de l'animer, comme Le Gac, par exemple, qui, à l'époque, ne faisait que des photographies et des textes. Hein, maintenant, il est venu au pastel, enfin, il a une pratique de dessinateur. Mais à l'époque, c'était uniquement des photos et des textes, quelquefois très longs, impossible à lire au mur. Enfin, il les mettait au mur, mais bien sûr que c'est un livre qu'il faut pour lire des textes qui sont vraiment très longs, très subtils aussi, très écrits. Je veux dire, c'est pas des textes conceptuels, c'est de l'écriture au sens littéraire du terme. Et alors, c'est très paradoxal que je dis Le Gac, mais il y aurait Gertz, il y aurait Baldessari aussi, qui a beaucoup travaillé sur le rapport photographie et texte, en écrivant des paraboles, comme il dit, ou des fables. Ce qui est paradoxal chez ces artistes plasticiens, c'est leur méfiance à l'égard de l'image, grande méfiance à l'égard de l'image. Et ça, ce qu'on appelle à l'époque la polysémie de l'image, enfin on l'appelle toujours, mais je veux dire c'est à ce moment-là que naissent les études sémiologiques sur l'image, sémiologie du cinéma, sémiologie de la photographie, etc. Et ils sont très informés, de cette littérature scientifique sur l'image, et donc à la fois fascinés par l'image et en même temps très méfiants envers cette espèce de caractère incontrôlable de l'image, ce que Le Gac appelle les images bavardes, eh bien le texte va leur apparaître comme un élément de contrôle de l'image, donc comme une sorte de, au fond, une maîtrise, hein, une possibilité pour l'artiste de maîtriser le sens de l'image, de lui donner le sens qu'ils entendent lui donner. Bon, il y a ça. Et puis, il y a aussi quelque chose qui était strictement interdit dans le... Il y avait des oukases hein, dans les années 60. Tout ce qui était littérature un peu novatrice, expérimentale, etc., nouveau roman, par exemple, avait jeté un interdit sur la narration. Et tout laisse penser que le narratif, le goût de raconter des histoires, s'est réfugié aussi dans le livre d'artiste, et que les artistes sont mis à raconter des histoires avec les moyens les plus, au fond, presque archaïques, hein, c'est-à-dire l'image et le texte illustré. Hein. Et il y a une espèce de goût, hein, du récit, de l'invention, par ces gens qui, encore une fois, sont extrêmement informés à la fois de la littérature populaire, hein, le gars qui a une collection de Fantômas, de Maurice Renard, de Jean Rey, etc., enfin, tout, et en même temps de la littérature la plus expérimentale. Hein. Et ils font leurs livres avec ce savoir-là aussi. Je ne sais pas si je réponds.
Oui, si.
Mais on a donc des travaux hybrides, hein, de photos et de textes qui ont leur lieu assez naturel, là aussi, dans le livre.
Oui, il y a des détournements de textes aussi, il y a des appropriations, il y a tout ce champ là, que vous analysez, où là, on part d'un livre déjà constitué qui va, tout un travail, devenir livre d'artiste. Hein. Je pense à une remarquable analyse que vous faites là du travail de Rodney Graham, une magnifique analyse sur la véranda.
Je serais incapable de vous la redire. C'est une chose d'une complexité. En fait, mais que je peux résumer. Et je m'en parlais tout à l'heure. J'en ai bavé à écrire ces pages-là. mais
c'est quand même un travail.
C'est un travail très étonnant et qui là encore va dans le sens de aussi de cette déspécialisation de l'artiste dans les années 60, c'est-à-dire tous les moyens sont bons, on n'est plus le technicien d'une technique, on peut prendre la littérature, on peut soi-même écrire, tout plasticien qu'on soit. Et Rodney Graham a repris une nouvelle de Melville qui s'appelle « La Véranda ». Et il y est intervenu, c'est-à-dire qu'il a ajouter un passage de quelques pages, quand même, 7-8 pages dans une nouvelle, c'est quand même assez long. Et quand vous lisez, vous ne voyez pas, vous ne voyez absolument pas. Alors, c'est un travail sur le style, c'est un travail sur l'ornement, parce que c'est au fond quelque chose qui il orne la véranda de Melville, texte et choses d'ailleurs. Bon, c'est extrêmement, beaucoup plus subtil que ce que je vous dis là, mais effectivement, et alors comment ça se présente? Ça se présente comme deux petits livres. Il y a le livre de Melville, parce qu'on ne cache pas sa source. Le livre de Melville, qui est réédité à l'identique. Et puis, deuxième tome, eh bien, il y a la véranda auquel Rodney Graham a ajouté un ornement, donc avec les quelques pages supplémentaires. Et puis, tout ça est lié par un petit bandeau extrêmement sobre. Hein, c'est deux petits livres tout à fait... Voilà, enfin...
Et là, le récit, il est repris, mais il est phagocyté, il est un peu... déjoué ou...
Oui, il y a une manière... Alors justement, tous ces artistes qui ont, je vous disais, ils ont lu les textes des sémiologues, ils savent comment on fabrique un texte. Et l'idée, c'est par l'intrusion d'un texte que l'artiste a écrit, de montrer la fabrique du texte, pas la sienne, mais celle de Melville. Mmh. C'est-à-dire de montrer qu'au fond, c'est aussi une façon de démystifier le génie créateur, le génie littéraire, en montrant qu'il y a une règle, qu'il y a une méthode, et puis qu'il y a des ingrédients, et que si on reprend les ingrédients et la méthode, eh bien, on fait du Melville. C'est le même, pour vous qui êtes musicologue, je pense qu'il a eu l'audace de rajouter des mesures... au Parsifal, En s'autorisant du fait que Humperdinck, l'assistant de Wagner, avait lui-même ajouté quelques mesures supplémentaires parce qu'il en fallait plus pour baisser le rideau à un moment donné, je ne sais plus. Et donc, lui s'est dit, mais pourquoi pas moi ? Mais en même temps, c'est un démontage. Il faut démonter la partition de Wagner pour pouvoir y intervenir de manière efficace. Oui, il y a toute... il y a toute une culte... Une culture du livre chez ces artistes, pas chez tous, bien sûr. Mais je disais tout à l'heure que le gars qui était très bibliophile et grand lecteur, mais ils ont une sorte de passion pour le livre, de curiosité pour le livre. Et il y a presque un chapitre que j'ai pu consacrer à ces artistes qui, comme Rodney Graham, s'approprient d'autres livres. Pour en faire autre chose. Mais souvent, ça n'est pas destructeur. Enfin, c'est plutôt un exercice d'admiration, une manière de comprendre le livre de l'intérieur en le reprenant à son compte. Enfin, c'est pas du tout iconoclaste, si on peut le dire, si on peut dire iconoclaste à propos d'un livre.
Alors, dernière question. Vous avez lié dès le début, en effet, ce livre d'artiste, quand même, aux utopies artistiques des années 60, ces grands mouvements artistiques. Et dans votre livre, plusieurs choses qui m'ont marqué, mais entre autres une conversation que vous avez avec Boltanski qui vous dit, donc on est en 91, c'est fini. C'est fini le livre d'artiste, il est mort avec les utopies de ces années-là. Et vous-même d'ailleurs, vous montrez qu'il y a c'est vrai, parfois un appauvrissement, enfin... période où la production semble s'appauvrir, ou alors elle est complètement récupérée par les marchands. Et en même temps, vous voyez et vous constatez que quelques années plus tard, Boltanski continue à faire des livres, et vous laissez entendre qu'au fond, il subsiste, mais il n'a peut-être plus le même engagement aussi utopique qu'il avait peut-être dans les années 60, et véhicule peut-être des significations on va dire plus individualiste ou peut-être pas individualiste, mais différente en tous les cas de celle de son moment d'origine. Bon, alors, c'est fini ou pas, ou ça continue et il y a encore...
Bon, là-dessus, je suis très partagée. Mais il faut que je fasse la part de ma déception par rapport à l'art actuel, sinon contemporain, parce que moi, le vrai art dit contemporain, c'est celui qui s'invente là dans les années 60-70. Après, il y a une espèce dont on pourrait dire post-contemporain, c'est-à-dire une espèce de détournement de toutes les des utopies dont vous parliez. Mais ce qui est certain, c'est quand vous citez la Boltanski qui me dit en 91, c'est fini, pendant les années 80, pendant 10 ans, il n'a plus fait de livres. Et les années 80, c'était, comment dire, la réaction. C'est-à-dire la fin des utopies, mais aussi retour à la peinture, retour à la sculpture. Vous voyez, c'est là qu'on revoit dans des vrais tableaux dégoulinants de peinture, comme dans les années 50, enfin, toute la bad painting, les nouveaux expressionnistes berlinois, etc. Donc, la réaction, quoi, ce qu'on appelle la réaction en histoire. Et Feldman aussi, qui a fait beaucoup de petits livres qui ont beaucoup compté dans les années 60-70, il arrête aussi. Et puis après, l'un comme l'autre d'ailleurs, ils ont refait des livres et pas... Donc c'est pas pour suivre une espèce de sillon qu'ils ont commencé, ma foi, qu'ils poursuivraient comme ça de manière quasiment automatique. Mais comment dire les choses rapidement ? Le livre d'artiste, mais comme l'art vidéo, comme la performance, il a créé un genre. Enfin, il y a des nouveaux genres qui sont apparus, qui ont peut-être perdu leur enracinement dans l'urgence d'un temps, mais ça, c'est l'origine. Finalement, les premières fois, c'est toujours plus passionnant hein, que la suite, hein, les commencements. Et il y a une sorte d'autonomisation du genre... encore une fois, que ce soit le livre d'artiste, que ce soit l'art vidéo, que ce soit la performance, etc., par rapport aux raisons qui l'ont fait naître. Alors, Bien sûr, on peut être partagé là-dessus, parce qu'un genre qui s'autonomise, il perd quelquefois de vue que, par exemple, on fait un livre parce qu'on a quelque chose à dire. C'est-à-dire que maintenant, dans les écoles d'art, moi, ça m'a révulsée, mais après, je me suis dit, mais on fait la même chose en peinture. Il y a des enseignements de livres d'artistes. Enfin, il y a des diplômes pour faire des livres d'artistes. C'est-à-dire, les étudiants, ils apprennent comment on fait un livre sans même se demander toujours, enfin, sauf quand ils ont de bons profs, qu'est-ce qu'ils vont dire par ce biais. Mais après tout, on apprend à faire de la peinture, on n'a pas toujours à dire quelque chose qui s'appellera un tableau. Donc, voilà, mais il ne pouvait pas ne pas, ça ne pouvait pas être autrement. Alors, ce qui est plus problématique, c'est ce que j'ai appelé dans ma préface, parce que ça, je l'ai vu arriver entre la première édition en 97 et la nouvelle édition là, de cette année. C'est un double mouvement de ce que je pourrais appeler bibliophilisation, c'est-à-dire une bibliophilisation de l'extérieur. C'est-à-dire que ces petits livres, parce qu'ils sont maintenant épuisés, ils sont devenus très rares, que les artistes aussi ont fait leur chemin, qui sont devenus maintenant des notoriétés, et enfin des grands noms de l'art, ces petits livres valent très cher, pour les premiers d'entre eux, en tout cas pour ceux des années 60. Et donc, vous savez comment sont les collectionneurs de livres, en tout cas, si ça vaut cher, c'est que c'est intéressant. Et on a vu les bibliophiles qui collectionnaient les livres de gravure, ceux dont je vous parlais tout à l'heure et que j'opposais à mes livres d'artistes, qui se sont mis à s'intéresser à ces petits livres, donc à faire monter les prix, bien sûr. C'est ce que j'appelle la bibliophilisation de l'extérieur, c'est-à-dire, la nuit, tous les chats sont gris, quoi. On va tout collectionner, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est ce que j'appelle la bibliophilisation de l'intérieur. C'est-à-dire, et là aussi, c'est pas lié aux livres d'artistes, c'est lié à l'évolution actuelle de l'art. Quand vous voyez la manière dont l'art actuel est totalement régi par la finance, enfin l'art qui se voit en tout cas, hein, totalement. C'est même plus de la spéculation, c'est de la financiarisation. Hein. Comment l'argent est là partout? Eh bien, il y a des éditeurs qui sont allés voir Rouchet, qui a dit des choses contre le livre illustré, contre le livre précieux, et qui, Gagossian, pour ne pas le nommer, hein, Gagossian qui va voir Rouchet, qui lui dit « j'ai plein d'argent, on va faire un grand livre », et qui se met à faire d'un livre énorme, que bien sûr on ne lit pas, qu'on met au mur. Un livre au mur, c'est un... Et il y a des textes de Rouchet que je cite, où il dit, mais un livre, c'est pas fait pour être mis au mur, ça, c'est parce qu'on veut que ça soit de l'art, donc on le met au mur. Un livre, c'est fait pour être tendu à quelqu'un à un moment donné pour lui dire, lis. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'il est ? Un artiste à qui on donne plein d'argent, même s'il a des convictions, il va se dire, alors, il a fait un livre ringard au possible... Mais ringard, allez le voir, si vous allez à Paris, il y a l'espace Vuitton maintenant, qui occupe l'ancienne librairie La Une, ça aussi. Mais La Une n'a pas fermé, hein. elle est partie un peu plus loin. Mais enfin, La Une, et maintenant, on va vendre des sacs à main, mais c'est ça l'art actuel quand même. Et il y a bien sûr c'est sur les livres, puisque à cause de La Une, ils exposent des livres, beaucoup de bibliothèques, etc. Et puis il y a le livre de Rouchet édité par Gagossian au mur. Et vous savez ce qu'il a choisi pour ce livre de luxe, totalement conventionnel, avec le texte à gauche, l'image à droite. Enfin, et alors le texte, vous savez ce que c'est? C'est On the Road, parce que monsieur a commencé par les gasoline stations. Mais On the Road, Kerouac et la Beat Generation, quand ils ont écrit ce texte, mais ils n'avaient pas un sou. Hein, c'était la pénurie totale, l'impécuniosité totale. Et donc, ça donne un livre parfaitement contradictoire. Enfin, un texte de Kerouac luxueusement illustré par... Voilà. Alors, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est ces artistes qui ont été des pionniers du livre d'artistes, qui se laissent tenter par l'argent et qui font du livre de luxe pour collectionneurs de livres précieux. J'ai lu, alors je ne sais plus où, hier, sur Internet, le titre, je ne sais même plus si c'est une exposition ou un, ça doit être une exposition qui se passe à Londres, mais ça dit tout. Quand les platitudes deviennent formes. Ça, vous connaissez l'exposition mythique « Quand les attitudes deviennent formes » d'Harald Zeman en 1969. Voilà, « Quand les platitudes deviennent formes ». Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que si le côté, pour revenir à la question de l'utopie, si la perspective utopique, mais comme partout, évidemment, n'est plus de saison, la perspective critique que porte ces petits livres pour les artistes, elle est toujours vivante. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'il y a de plus visible. Donc ça reste, et il y a toute une production de petits imprimés par des petits livres, par des tas d'artistes. Par exemple, pour les Français, je vous conseille d'aller voir, et vous verrez que c'est très vivant, le site des éditions ZDLE, ça s'écrit Z-E-D-E-L-E, c'est à Brest. Bon, qui édite toutes sortes de jeunes artistes qui s'expriment à travers le livre ou la revue, ou disons le petit imprimé. Allez voir aussi le site des éditions Un Certain Sens, IN, hein, comme l'incertitude. À Rennes, enfin peu importe, vous trouverez leur site facilement. Pensez aussi, c'est très parisien, le salon Light qui vient d'avoir lieu. Light, hein, c'est la production légère où il y avait, mais c'était époustouflant de voir tous ces livres qui sortent, bon, plus ou moins intéressants, mais c'est normal, ça, c'est normal. Et qui montrent que, bon, on peut encore faire de l'art. Quel est le sens ? Il n'y a plus d'utopie, mais l'idée, c'est qu'il y a toujours des artistes qui sont convaincus qu'on peut faire de l'art autrement que ce qui se fait et qu'on voit dans les galeries qui ont pignon sur rue. Pour ne pas être tout à fait pessimiste.
Bon. Alors, après cette note d'espoir, et c'est...
Très tempérée, comme vous avez dit.
Oui, très bretonne aussi.
Mais moi, je ne veux pas décourager... Oui, c'est comme ça. Voilà. Oui. C'est comme ça. Mais je ne veux pas décourager Billancourt non plus. Je veux dire qu'il faut faire très attention. Enfin, il y a des tas de jeunes artistes qui ont la volonté de faire des choses et de prendre ce médium au sérieux.
On a presque envie, à la suite, de faire le sien.
Ah ben, allez-y.
Ah oui. Je pense, c'est vrai qu'il y a tellement d'inventions, d'originalité. On trouve nécessairement... dans ce référencement de 400 livres, un livre qui va plaire, quoi, enfin qui va intriguer, quoi, intéresser. Alors, avant que on se sépare, je rappelle donc que Anne Le Glin-Delcroix a été invitée par la librairie Mola, mais aussi par la Société de philosophie de Bordeaux, dont je salue la présidente, que j'ai oublié de saluer publiquement, qui termine son mandat, son septennat. Et donc, il a mis à votre disposition des bulletins d'adhésion, parce que vous savez que cette société n'a pas beaucoup de financement, sinon votre générosité. Hein, et donc, vous trouvez ici un magnifique bulletin d'adhésion. Et l'adhésion est très, très raisonnable, hein, puisqu'elle est de 10 euros pour les adultes et de, je crois, de 5 pour les étudiants.